Salut les garçons, vous m'entendez?
Oui, je t'entends très bien.
Comment ça
Ah bon, nickel, hein. Très très
va?
belle
Est-ce que j'ai
soirée,
pris
tiens.
2 heures pour digérer?
Oh, s'il me fallait que 2 heures,
Oh,
mon
t'as vu, tu
pote.
m'as pas fait le. Vous avez vu un but? T'as vu un but donc. C'est ça, vous avez
Ouais,
marqué un but.
j'ai bien aimé ça.
C'est l'objectif, c'était l'objectif, hein?
De
Bah, de la saison, oui,
Ah
c'est.
bah,
Bah là, vous avez.
au moins
Bah, je
ça.
pense que bah, c'est bon, vous pouvez gagner avec des champions du coup.
Ok, j'ai capté. Vous allez me chier dessus toute la soirée. C'est top. C'est trop bien. J'ai bien fait de venir là.
Bah écoute, on va commencer. On va commencer. De toute façon, c'est enregistré donc les gens ils compteront s'ils veulent. Et parce que sinon, il est déjà 23h11 et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur les deux matchs. D'abord, on va par le match de Benfica, Phil. Bon, je vais pas te mentir, j'ai coupé au bout de la 15e minute. Enfin, dès qu'il y a eu le 3-0, mais qui a été annulé, où je suis, enfin, il y a eu tellement d'actions. Je crois que non, c'était au 2-0, 2-0 au bout de 10 minutes. J'ai compris quel genre de match ça allait être. Et la souffrance était trop terrible à regarder, donc je préférais faire autre chose perso. Donc Phil, je vais te laisser commencer sur ce match. André, tu compléteras. On va tout de suite commencer par la composition. Donc pas vraiment de surprise par rapport à ce qu'on voit depuis maintenant 3 matchs. Une défense à 3 qui sort de nulle part. Morato, Otamendi, André Silva. Bon, ça peut être sur le papier, c'est logique, même si c'est vrai que dans ce cas-là, un Thomas Araújo peut avoir sa place, notamment à la place d'un Otamendi qui tombe vraiment sur la fin et fait la saison de trop comme on pouvait le craindre lors de sa prolongation. Et des pistons qui sont tout sauf des pistons, bien évidemment Orsnes et João Neves. Donc composition qui nous sort, voilà, qui un 3-4-3 qui nous sort de son chapeau pour montrer qu'il est en difficulté, qu'il a plus d'idées et qu'il sait plus quoi faire. Et voilà, c'était un mot là-dessus sur la composition qui déjà annonçait une soirée compliquée.
Bah écoute, j'aurais dû faire comme toi. Je te jure, au bout de 15 minutes, éteindre la télé et faire autre chose. Mais je pouvais pas, parce que c'est plus fort que moi. Bah la compo, en vrai, on savait, hein, on sait que c'est un système qui est pas travaillé, qui est bricolé enfin, le point fort de cette tactique, normalement, c'est les pistons. Et là, c'est la première fois que je vois un 3-4-3 ou même déjà un 3-5-2 ou quoi, mais sans réel piston. Genre, tout ce qui peut t'apporter de bon dans cette tactique, tu les as pas. Ou du moins, tu les as pas dès le début du match. Donc, je comprends pas pourquoi s'entêter à faire des trucs comme ça et à sacrifier un joueur en Neves et le mettre sur le côté, histoire de dire, bon, voilà, il me faut 11 joueurs, sachant que Rafa et João Mario sont écrits à l'encre indélébile sur mes compos, donc je peux pas les enlever. Enfin, comme je te dis, c'est pas travaillé. João Mario, c'est João Mario note 8. Cette phrase, putain. Plus Cabral aujourd'hui titulaire. Histoire de mettre le match en mode vraiment difficile. Donc voilà, pas étonnant. Di Maria qui je pense a pris un petit peu une semaine de retard par rapport à Halloween avec son déguisement de fantôme aujourd'hui. C'est dommage parce que c'est pas lui qui s'appelle Casper aujourd'hui.
C'est pas le
Aujourd'hui il
moment
aurait
déjà.
pu. Ah
Ça fait 2 3 matchs comme qu'il est en difficulté.
Eux c'est pas le seul.
Ouais.
Parce que lui est en difficulté, Rafa est en difficulté, Jean-Mario est en difficulté. Bon, tu me diras, tout le monde est en difficulté. Schmidt est en difficulté. Donc, ouais, après, c'est bien mignon face à Aroca et face à Chaves, mais quand tu joues une équipe qui joue au football, qui est séduisante, c'est une des équipes qui, en tout cas, moi, cette année, me régale le plus avec Leverkusen. C'est une des équipes qui me hype le plus. Et ils sont trop beaux à voir jouer, genre, tellement que bah, nos joueurs les regardent jouer. Parce que c'est mignon. C'est mignon à voir. Et c'était. Bon, peut-être pas le début de match, c'était pas prévisible. Genre, on pensait que ça allait mal se passer. Mais pas à ce point-là. Donc on a réussi à faire pire que la soirée face à Salzbourg. Je ne pensais pas que c'était possible, mais ma foi. Et puis ouais, t'as pas grand-chose à retirer de ce match, quoi.
Bah on va en parler un peu. Je vais laisser André. André. À chaque fois, je vais faire Antoine.
Regarde, je vois à chaque
Faire
fois ça va être le cas.
Antoine, parler un peu de la compo, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ensuite, on parlera du match, si on peut en parler vraiment, parce qu'au final, au bout de 20 minutes, tout est fini. Et ensuite, c'est juste la Real Sociedad qui a géré et qui n'a pas vraiment appuyé pour je ne sais quelle raison, mais le match a duré à peu près 20 minutes, quoi.
Ouais, bah, on peut faire des redites par rapport à Phil, mais c'est vrai que mettre un joueur Neves à droite, ça c'est vrai, c'est un des choix les plus terrifiants qu'il fait, c'est pas possible. Surtout pour après 30 minutes, faire quand même monter Jurasek et repasser Neves dans l'axe, Hornes à droite et Jurasek à gauche. Ouais, quand tu vois Cabral en pointe, tu te dis ouais, chaud. Et au final, il a pas été si mauvais que ça. Il y a eu un peu des trucs, il a un peu servi dans le peu de trucs un peu positifs qu'il y a eu. Mais je crois les 25 premières minutes, parce que c'est vraiment là où c'est exagéré, les 25 premières minutes, c'est des adultes qui jouent contre des enfants. En termes d'intensité, c'est hallucinant.
Quand t'es un peu neutre et que tu aimes les clubs portugais, c'est une souffrance de voir ça, quoi. Enfin, tu te
C'est
dis, ah,
comme si, genre, nous,
la
là, on
honte,
faisait une équipe
la honte.
et on allait jouer contre une équipe pro.
Oui, c'est ça.
J'ai l'impression de voir une équipe de Casa dos Conselheiros contre une vraie équipe de football. Et c'est pas possible. C'est juste pas possible.
Parce que dans les 20 premières minutes, il y a un coup franc de Di Maria avec une frappe de João Mário, je crois, en tout début de match. Mais après, Benfica a passé combien de fois le milieu de terrain? 3, 4, pas plus, hein. Sur les 20 premières minutes, c'était hallucinant. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que, bon, tu te fais enfoncer, ok, mais à aucun moment, il y a la présence d'esprit de se dire, tiens, on va taper une longue chandelle devant, histoire de calmer 2-3 secondes. Non, il s'est sûr de ressortir. C'était hallucinant. Mais ouais, voilà, sur la compo. On va commencer par le match. Antoine, je te laisse commencer sur le match, entre guillemets. Est-ce que tu as des choses à dire, à souligner, à mettre un avis, tout simplement? Et Philippe, je te laisserai ensuite exprimer ta colère, même si je pense que ça va faire comme ça va faire tous les 3 jours où on se répète, donc il n'y a plus grand-chose à dire à force. Y a même plus de... enfin, y a... On a déjà épuisé tous les mots possibles depuis le début de saison. Mais bon, on va essayer quand même de dire quelque chose. Mais voilà, je te laisse commencer, Antoine, et Phil, tu complèteras.
Bon, allez, on va essayer d'être un peu positif. Point positif, on savait que Di Maria était sur le terrain parce qu'il shotait les phases arrêtées. Voilà. C'est le seul truc qu'il a un peu bien fait dans le match, mais voilà. Cabral n'a pas été trop mauvais. Il a été parfois intéressant un peu en appui. Bon, quand il a eu un ballon aussi. Après, Florentino catastrophique, mais vraiment, lui c'est terrible parce que, et en plus, toi Alex qui en fait souvent plus la propagande et ça fait depuis le début de saison qu'on met en avant qu'il y a un problème dans ce milieu de terrain au Benfica dans la gestion de l'espace dans le dos hein, parce qu'il manque un vrai milieu défensif et bah, il plaide pas pour sa crèche Florentino quand tu fais un début de match pareil, c'est une catastrophe. Que dire? En fait, il y avait rien qui était réussi. Il y a eu si les 2-3 premières minutes et puis c'était fini sur le but. Déjà le premier but, en fait, ça tombe sur une erreur entre, je crois que c'est Morato, mais je suis pas sûr, et Trubin qui communique pas. Et c'est ça qui met la balle sur Munoz qui fait sa frappe ratée, qui revient sur Merino. Ils sont deux dans son dos. Merino, c'était Florentino qui le tenait, qui s'arrête. Enfin, c'est un enchaînement d'erreurs individuelles. Et bah, là, c'est blackout. Mentalement, ils ont complètement. Ils ont éteint. Pendant 20 minutes, c'était pas eux. Je pense que Phil a parlé de Casper, Di Maria. Je pense qu'ils étaient tous en mode autopilote. Ils n'étaient plus là. Ils avaient débranché. Et du coup, ben. En fait, sur les 20 premières minutes, il n'y a rien à analyser. C'était tellement. En fait, c'est même pas dire que c'était juste mauvais. Il y avait tellement. Quatre niveaux d'écart entre les deux équipes. Il y avait une équipe qui marchait, l'autre qui courait, et une équipe qui pressait, l'autre qui savait pas faire des passes à 3 mètres. Je pense que le deuxième but, évidemment, Otamendi, c'est oh là là, le vieillard, quoi. Mais
Mais même Antonio Silva, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il voit que Otamendi va arriver trop court et au lieu d'aller un peu l'aider, il reste à sa position un peu écartée de central droit. Il va pas du tout le soutenir alors
Ah,
que.
Antonio Silva, il est sur la lancée. Enfin, c'est, j'ai pas envie de tirer sur lui parce que c'est très jeune et ça reste un crack générationnel. Et si on doit tirer sur quelqu'un, c'est Otamendi qui est le capitaine et qui est totalement à la rue sur le début de saison. Mais Antonio Silva, il n'est pas à son niveau de l'année dernière comme
Non.
l'ensemble de son équipe. Hein, ça, c'est logique. Mais voilà, il te coûte le match contre Salzbourg parce qu'il te fait une main comme ça, même si elle n'est pas intentionnelle. Même, enfin, on va dire que c'est un. C'est pas de sa faute entièrement parce que je pense que cette main-là, c'est plus un, comment dire,
Un réflexe.
un réflexe exactement,
Ouais.
c'est le mot que je cherchais. Et là, mais aujourd'hui, sur le premier but, c'est lui qui couvre d'une façon, mais c'est digne d'un débutant. Enfin, t'as tout le monde qui est
Ouais.
aligné et lui, il est à 3 mètres. Donc, c'est vrai que sur ce début de saison, il coûte quand même quelques buts, Antonio Silva. Et autant
Ouais.
l'année dernière, quand il te fait le penalty contre le PSG, etc., tu peux lui pardonner parce qu'il débute en fait dans cette position et en plus il est tellement énorme sur les rencontres que tu peux lui pardonner une erreur. Là, il a déjà une année d'expérience, alors c'est pas énorme, mais il a déjà une année d'expérience derrière lui. Et surtout, bah, il n'est pas si énorme que ça cette année, donc forcément, la moindre erreur, elle est beaucoup plus visible.
Ouais, il est bon dans ses bons matchs, mais sans plus. Et dans des matchs comme ça, bon, après, comme tu l'as dit, hein, c'est le rôle du capitaine aussi. Il n'est pas capitaine, et c'est normal, il est encore jeune. Mais quand tu as toute une défense qui flanche, techniquement, c'est normal qu'un jeune comme ça soit pas celui qui les relève. C'est à Otamendi de le faire. Et quand tu as ton capitaine à côté qui coule, c'est compliqué. Mais sur ce deuxième but, je sais bien que beaucoup de monde ne vont pas parler de Silva parce que c'est évidemment Otamendi. Enfin, c'est Oyarzabal, il part avec 4 mètres de retard sur Otamendi, il arrive à 1 mètre d'avance, c'est complètement fou. Mais Antonio Silva, il le regarde jouer, c'est incroyable. Et tout le monde voit au moment où Oyarzabal commence à courir, on sait qu'il va arriver avant Otamendi, et Silva, il recule, il recule, il s'écarte presque d'Otamendi. C'est voilà, c'est un joueur qui n'est pas en confiance pour l'instant, comme tout l'effectif. Mais voilà, il y a eu des erreurs tout le long. Et puis bon, après la première demi-heure où la Sociedad s'est déchaînée, bah voilà, la Sociedad a dit c'est bon, on a mis 3 buts, un qui a été annulé, on a raté un penalty, on est rassasié. Et du coup, ils ont un peu laissé tomber le pressing. En tout cas, ils en ont mis moins que le gros harcèlement qu'ils faisaient en début de match. Et du coup, on a pu revoir un petit peu Benfica qui remontait avec aussi évidemment la sortie de Florentino, la montée de Jurasek, qui a quand même permis de retrouver un minimum d'équilibre qu'il n'y avait absolument pas avant. Au final, que j'ai trouvé d'ailleurs meilleur à droite qu'à gauche. En même temps, c'était pas compliqué vu le début de match. Mais après, que dire? Je pense que faut peut-être plus regarder la deuxième mi-temps. Il y a quand même eu de meilleures choses face à évidemment une équipe qui jouait plus énormément non plus. Mais on a retrouvé un peu, alors je sais que Phil ne va pas être aussi gentil que moi, mais je trouvais que la deuxième mi-temps de Rafa était pas mauvaise, elle est intéressante, on a retrouvé un peu, là où sa première, bah, il n'a pas touché un ballon, en deuxième c'était plus intelligent, même Jean-Marie en deuxième mi-temps, j'ai trouvé plus intelligent et plus utile son positionnement, mais voilà, en gros c'est 3-1, les gens qui ont regardé le match savent que si la Sociedad veut c'est 8-1, s'ils n'arrêtent pas de jouer. Je dirais que 3-1, t'as limité les dégâts, t'as mis ton but pour sauver l'honneur. Bon, voilà, maintenant c'est terminé. Je sais même pas si Benfica doit mettre ses forces pour essayer de ne pas faire le 0 en Ligue des Champions. Il y a une question d'honneur, évidemment, mais quand t'es à ce point, à la rue, à tous les niveaux, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre, je sais pas, laisser la Coupe d'Europe de côté et se concentrer sur le championnat? Parce que là, tu rentres dans une spirale où t'es déjà mauvais en championnat, mais quand tu prends des humiliations comme ça peut se répercuter en championnat sur bah évidemment les adversaires ils voient hein, que t'es catastrophique, ils voient que quand tu les presses ça marchait déjà en début de saison, ça marche encore plus pour l'instant, donc voilà, que dire de plus, je sais pas, en fait tactiquement il n'y a rien à analyser de ce match, c'est un non-lieu total, donc
Ça, c'est un match totalement sans où
ouais
toute l'équipe a sombré encore une fois.
oui tous ensemble
Ça fait
ouais.
beaucoup de fois déjà. On est au début novembre. Phil, si tu veux compléter ce qu'a dit Antoine sur ce match et sur ce début de saison, oui et non, parce qu'on a déjà quasiment tout dit.
Antoine est un garçon adorable que j'aimerais prendre dans mes bras tellement il est gentil. Parce que moi je vois vraiment aucun point positif. Je les ai trouvés individuellement nul à chier, même pas, il n'y a pas de truc positif de première, deuxième mi-temps. Alors peut-être que moi j'ai la vue du supporter qui est peut-être un peu moins indulgent forcément, mais j'arrive pas à trouver du positif. Même le but de Rafa, enfin bon, comparé à ces derniers matchs qui me sort, c'est une goutte dans l'océan. Je suis d'accord sur le. Enfin, Florentino est mauvais dans ce début de match, comme toute l'équipe d'ailleurs. Je pense que peut-être même s'il serait resté sur le terrain, il aurait pu se stabiliser comme le reste de l'équipe. Le souci, c'est que il jouait ses premières minutes en Ligue des Champions aujourd'hui, au bout de la quatrième journée, dans un système que personne ne connaît, en plein Real Arena, où tu sais que ton adversaire, déjà, il t'a fait danser la salsa chez toi, donc forcément, ça va être le même cas chez eux, voire pire, ça a été le cas. Je trouve que le contexte n'est pas bon, et parce qu'il rate 30 minutes, c'est le premier à en pâtir et à sortir, parce que tu as décidé de ne pas mettre de piston dès le début, et d'aller avec deux milieux sur les côtés. Et du coup, tu veux te rééquilibrer en passant Joao Neves au milieu, même si je pense que Joao Neves aurait dû prendre la place de João Mário. Mmh. Alors que tu as des leaders de vestiaire, paraît-il, qui sont nuls depuis le début de la saison. Rafa était bon que au mois d'août. João Mário était nul depuis le début de la saison. Et ils sont toujours... Enfin, João Mário, il fait encore une frappe à la 75e. Mais comment ça, tu joues presque 80 minutes aujourd'hui alors que tu es nul? Pour moi, c'est lunaire. C'est-à-dire que Florentino, voilà, je sais pas, cette année, il l'a pris en grippe, je pense. Il a bon dos de le faire sortir. Di Maria, il n'aurait pas les couilles de le faire sortir. Rafa, pareil. João Mário, pareil. Ces mecs-là, qui sont ces hommes de main, il ne les ferait pas sortir, quand bien même il raterait une passe. Pour revenir à ce que tu disais sur Antonio Silva. Je suis d'accord avec toi qu'il juge mal l'action, mais aussi peut-être parce que le garçon est perdu. Il n'est pas habitué à une défense à 3. Il a fait 2-3 matchs, je crois, en sélection, en jouant à 3 derrière, avec des mecs qui sont quand même un peu plus habitués et face à des adversaires qui sont nettement à la portée de la sélection. Il n'est pas habitué à se manger une salsa comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que son positionnement sur le but. Le premier sur le deuxième, moi pour moi c'est juste parce que le garçon il sait pas se placer et il a un manque de confiance comme toute l'équipe. Il voit que le coach il est complètement perdu, donc il essaye de faire. C'est comme un mec qui joue toute sa carrière dans une défense à 3. Bah, je pense à Ignacio ou à Nulmensch, et que tu les mets dans une défense à 4, les garçons ils vont être perdus au début. Bah là, toute l'équipe est perdue. Tu voyais des courses partout. João Neves, j'ai pas envie de l'incriminer parce que, vas-y, on lui invente un poste de piston droit. Le pauvre, il savait même pas où se placer. Et en plus, tu lui mets Barnecha sur le dos. Mais c'est horrible. Le petit, il mérite pas ça. Personne mérite ça, ceci dit. Mais c'est tellement, tellement de choses. J'ai l'impression que on m'a kidnappé mon coach de l'année dernière et on m'a envoyé son cousin. Mais c'est horrible. J'ai aucune satisfaction sur cette saison, ni en A, ni dans les autres échelons. C'est pire en pire.
Est-ce que j'étais partisan, il n'y a même pas une semaine, je crois, de dire qu'il fallait laisser jusqu'à décembre, parce qu'on n'avait pas déjà que par rapport à tout ce qu'il a fait l'année dernière, etc. Même si je répète encore que pour moi, ça, l'année dernière, il y a vraiment eu 6 bons mois, en fait. Et il n'y a pas eu une année complète, en fait. Je pense que beaucoup... à partir du moment où ils ont perdu Enzo, il n'y avait plus la si bonne équipe que qu'on pouvait avoir lors de la première partie de saison. Donc, il faut nuancer sur la saison de Benfica et la saison dernière. On s'était dit que voilà, par rapport au fait qu'il a redonné quand même une âme à ce club, etc., quart de finale des champions, le titre de champion alors que ça faisait 4 ans, on devait lui laisser au moins jusqu'à décembre. Le foot est fait de culture de l'instant aussi, c'est comme ça, il faut juger aussi au moment T. Est-ce que là, une semaine après, s'il y a des fêtes contre le Sporting, est-ce que c'est pas le moment de s'en séparer? Parce que
tu peux perdre en plus après.
Il y a la trêve exactement, donc ce serait le bon moment. Tu peux perdre. Et c'est ce que je disais, c'est que tu peux perdre, ça arrive, c'est comme ça, c'est le football. Mais tu ne peux pas être aussi mauvais dans l'attitude et dans le jeu, et tu as l'impression qu'en fait les joueurs l'ont lâché. Donc quand tu vois l'entame des matchs, est-ce que tu te dis que finalement c'est plus l'homme de la situation, tout simplement?
Non, mais tout va dépendre de comment tu vas perdre dimanche. Parce que moi, franchement, là, vu comment la situation est, c'est-à-dire qu'en face, on va avoir l'équipe qui joue le mieux le football au Portugal, contre l'équipe qui joue peut-être le plus mauvais football au Portugal. J'abuse un petit peu, mais en tout cas, sur les trois grands, sur les quatre grands, pardon, on n'est pas loin.
Je pense même, Phil, que si tu prends le niveau de jeu par rapport au niveau intrinsèque des joueurs, c'est effectivement le plus mauvais jeu du championnat.
Ah oui, ah oui, bah là c'est sûr. Parce que pour moi, il y a match entre nous et Porto, mais
Oui.
notre effectif sur le papier est beaucoup plus qualitatif normalement. Et même comme ça, hein, eux, dans notre groupe, ils font pas 0 points en 4 journées.
Non.
Et nous, on fait peut-être pas autant de points que eux dans leur groupe, même si leur groupe est présumé plus faible. On n'aurait pas rendu la vie si compliquée au Barcelone chez nous, c'est sûr et certain. Donc il y a ça. Et aujourd'hui, on s'en sort bien. Parce que, en vrai, normalement, à la mi-temps, tu dois en prendre 5 ou 6. Tu dois être à 5-6-0. Si c'est le cas, je pense qu'il saute dès ce soir. Et en fait, tout va dépendre de dimanche. Si dimanche, on se mange une sauce, genre 4-5, à la maison, avec but de pote, Nunsaint, machin et compagnie, mais. Je vois mal comment il va pouvoir le garder jusqu'à la fin de la saison. Combien même il coûte 27 millions son licenciement. Mais le problème, c'est que si tu le vires lui et que tu mets Verissimo dans la A, non, mais franchement, en vrai, moi j'aimerais bien juste profiter un petit peu. Genre, je sais pas, une ou deux saisons, c'est tout ce que je demande. Un peu de kiff, juste un petit peu. On a eu 4 mois.
Je sais pas si on se rend compte, mais Phil, il a deux doigts d'attendre les rassemblements du Portugal de Martinez, hein,
Ah
quand
mais
même.
là j'ai envie de voir le crâne chauve de Martinez, lui. C'est dire.
Mais par contre, ça me fait penser, Alex, tu as parlé des 6 bons mois et effectivement déjà de la saison passée. Mais en vrai, on parle beaucoup du PSG avant et après la Coupe du Monde. Mais Benfica, c'est pareil. Tous les cadres qui étaient bons, bon, à part Antonio Silva, mais quand il commence la saison, c'est pas un cadre. Mais tous les cadres qui étaient portugais et argentins ont été bons avant la Coupe du Monde, et après la Coupe du Monde, c'était une catastrophe.
Oui, totalement,
Ah,
oui.
bon, après,
Je pense que
Enzo, il
tout
n'était plus
le monde.
là. Mais je veux dire, avant, tu avais quand même tes Argentins qui étaient à haut niveau, tu avais tes Portugais internationaux qui étaient au niveau, un peu comme on a vu au PSG, où on voyait que Neymar, Messi, ça se motivait avant la Coupe du Monde, et qu'après, ça a été plus compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi exactement la même chose qui explique aussi cette différence de niveau des cadres avant et après la Coupe du Monde?
Ah, bien sûr, mais c'est pour ça que sur les 6 mois qui ont suivi la Coupe du Monde, j'ai pas envie d'être trop méchant non plus, parce que je peux comprendre qu'une Coupe du Monde, ça, en termes d'énergie mentale et physique, ça prend beaucoup de place, et c'est pour ça que je peux pas incriminer les Otamendi, etc., d'être mauvais sur la seconde partie de saison. Par contre, cette saison, il n'y a aucune excuse. Par contre, cette saison, il n'y a aucune excuse. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle année. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Si vraiment le garçon, avec le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde, pour lui, a tout gagné, et ce qui est logique, ce qui est compréhensible, n'a plus envie, bah dans ce cas-là, il ne fallait pas y plonger, il fallait retourner au pays et t'amuser. Et voilà. Mais tu ne peux pas plonger à Benfica et faire ce genre de prestations, parce que là, c'est clairement le Otamendi de son arrivée, quoi. Les trois premiers mois de son arrivée, il était à ce niveau-là. Et là, il est pas bon. Et en effet, oui, je pense que, comme l'ensemble des Argentins, j'ai l'impression qu'en fait, cette Coupe du Monde, bah, c'est comme s'ils avaient gagné le trophée de leur vie, ce que je comprends, et comme c'était leur aboutissement de leur carrière. Et depuis, à part Julian Alvarez et Enzo comment dire, et Lautaro, c'est un peu plus compliqué pour les autres, ça, c'est clair.
Ouais, et en plus, comme tu le dis, si effectivement tu sens que mentalement t'y es plus, tu ne prolonges pas,
C'est
et
ça.
encore plus quand tu es le capitaine de l'équipe.
Totalement, totalement, totalement. D'autant plus que bah, c'est pas comme si il n'y avait rien derrière, quoi. Tu avais Morato, tu as Antonio Silva, tu as Thomas Araújo. Encore une fois, la prolongation, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire. Ça n'avait pas beaucoup de
Oui.
sens dès qu'il a prolongé, parce que pour moi, il fallait tourner la page. C'était une fin de cycle. Mais Phil en parlera mieux que moi. Benfica et les fins de cycle, c'est compliqué. Ce club ne s'est jamais tourné la page. Il faut se rappeler qu'André Almeida, il a fallu attendre une blessure pour qu'il pour, pour qu'il pour qu'il ne retrouve plus les terrains, parce que sinon il était encore titulaire aujourd'hui. Hein, donc, compliqué les fins de cette
année, etc. C'est pas compliqué, c'est catastrophique. Dans un club normal, Vlaco Dimos, il reste pas autant d'années. Pizzi, on s'en est débarrassé quand vraiment il avait vraiment plus aucun jus. C'est horrible. En fait, on ne sait pas se défaire des joueurs quand ils ont un minimum de valeur marchande ou qu'il y a du marché. Là, Otamendi va partir, je pense, à la fin de la saison. Il pourrait très bien être titulaire à River Plate à côté de Paulo Diaz. Parce que ça y est, cette saison, c'était compliqué. Alors, Dani nous l'avait dit dès le début. Moi, je le trouvais un petit peu sévère parce que je trouvais qu'il y avait certains matchs où il n'était pas tant à la peine que ça, mais dernièrement, c'est chaud, quoi. Et comme a dit Alex, là, t'as du monde. T'as au moins 3 centraux de qualité derrière. T'as encore Verissimo qui, là, maintenant, joue titulaire au Brésil et il y a de la continuité. Il ne reviendra jamais à son niveau, je pense, mais bon, il pourrait éventuellement être une solution de remplacement. T'as encore le cas Juan Victor que on sait pas trop ce que ça donne. Voilà. Pour moi, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. Parce que si tu perdais Otamendi, tu perdais aussi du leadership dans le vestiaire. Et je pouvais comprendre la prolongation de ce point de vue-là. Maintenant, sportivement, on pouvait se poser des questions et force est de constater qu'on avait raison de le faire. Donc voilà. Aujourd'hui, on en paye les pots cassés, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui qu'on a des mauvaises gestions. Juste là, dernièrement, elle était un petit peu moins mauvaise, mais elle reste quand même. Va falloir rendre des comptes bientôt.
Bien sûr, c'est pour ça que quand tu vois les 4 premiers mois de l'année dernière, forcément, tu es obligé de souligner le bon travail de Rui Costa qui a été réalisé lors du mercato, de l'entraîneur, etc. Mais c'est aussi notre droit et notre devoir aussi que quand ça va mal, tu pointes aussi les mauvaises décisions. Ça ne veut pas dire que Roger Smith est un pitre, ça ne veut pas dire que c'est devenu un mauvais entraîneur du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que Rui Costa est aussi un mauvais président ou le pire président, etc. Ce n'était pas les meilleurs au monde la saison dernière, ce n'est pas les pires maintenant. Juste qu'il y a un bilan à faire bientôt, et ils doivent le faire et tirer des conclusions parce que ça reste Benfica et que tu peux pas être Benfica et être aussi largué en Ligue des Champions. C'est en championnat, bon, en championnat t'es pas encore largué, mais si tu perds dimanche ça peut vite devenir compliqué. Mais sur la scène européenne tu peux pas être Benfica, avoir 2 titres de champion d'Europe et te présenter comme ça face à la Real Sociedad. On parle de la Real Sociedad, alors c'est peut-être une des équipes qui joue le mieux, comme tu as dit, Phil, lors de ce début de saison. Mais c'est pas non plus, c'est pas Manchester City, c'est pas le Bayern, quoi. Enfin, tu as l'impression vraiment que, ouais, comme on vous l'avait dit, c'était des amateurs contre des pros. Et quand tu es Benfica, c'est pas possible de proposer ce genre de contenu. Et ça, il va vraiment falloir rendre des comptes, comme tu dis, et se poser autour de la table et discuter pour savoir si on doit continuer comme ça ou pas.
Ouais, parce qu'effectivement, il y avait un problème d'attitude. Quand tu vois le début de match, tu vois que Benfica commence le match en ayant peur. Et c'est pas comme tu le dis, c'est pas possible. Un club comme Benfica qui a cette aura-là, ce palmarès, cette vie européenne, tu ne peux pas te déplacer à la Real Sociedad, aussi bonne soit-elle, avec la peur au ventre comme ça en commençant ton match. Ce n'est pas possible.
Ouais, mais ça s'explique parce que les leaders et les cadres de l'équipe se font caca dessus constamment. Encore une fois, je vais taper sur les mêmes, mais parce que c'est eux qui doivent rendre des comptes. Et au final, c'est ceux qui se cachent. Combien de fois après des défaites, t'as vu Rafa ou t'as vu Jean-Mario venir en interview? Ça envoie les petits, parce que les petits, ils viennent et ils savent que dans tous les cas, les gens ils vont pas taper sur les petits parce que eux ils donnent tout au moins. Mais combien de fois tu les as vus eux, en flash interview ou venir au micro, tu vois, Antonio Silva, il est venu de lui-même après le match contre Salzbourg parce que il est venu s'excuser par rapport à ce qu'il avait fait, alors que en soi c'est quelque chose qui arrive, tu vois, il a pas fait volontairement. Et les cadres en fait ne sont pas au rendez-vous. Alors Otamendi a pas été bon et il est en difficulté, mais au moins sur le terrain tu peux pas lui reprocher un manque d'implication. C'est juste que il est dépassé. Pour moi, ils sont. Il y a un manque d'implication. Pareil, Di Maria aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, même s'il vient d'arriver cette année, il doit être considéré comme un cadre de par son statut. et il n'a pas la bonne attitude. C'est-à-dire qu'il ne veut pas défendre. Bon, il a plus 23 ans, hein. Mais dans l'attitude, il faut montrer certaines choses. Et quand juste le fait de quand il est quand on lui demande de sortir, et le gars il baisse la tête et il boude. Bah non, mais pas toi. T'as tout gagné. T'as toujours été un mec important dans les vestiaires. Tu peux pas réagir comme ça. Et en fait, le problème c'est ça. Si les petits, enfin je dis pas les nôtres, hein, mais les jeunes, genre un mec comme Tengsten, il vient d'un club avec une autre culture et tout, et il voit ça, et il se dit ah ouais, mais c'est ça un grand club. Bah c'est bizarre. Hein. Donc ça passe par là. Et ces mecs-là, en fait, c'est juste que les leaders dans cette équipe sont pas des leaders, tout simplement, en fait.
Ouais, totalement. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur la prestation de Benfica, ou on peut passer à Boraga?
Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
Hein. Oh non.
Ouais, non. On a fait quand même 40 minutes sur une prestation catastrophique. Hein,
oui.
L'habitude.
Ouais. Les tops et les flops, on va éviter, hein, je pense que...
Bon, top Barrenetxea, Oyarzabal, Meribao,
Kubo, Munoz aussi, le latéral gauche.
Même Kubo, aujourd'hui, je ne l'ai même pas trouvé beaucoup. Enfin,
non, il a été très bon pendant 30 minutes et puis il a décliné petit à petit.
Je pense qu'ils se sont dit vas-y. Ils ont fait un top match contre le Barça il n'y a pas longtemps. Là, ils ont donné 30 minutes, ils se sont dit allez, vas-y, on va se calmer, on va poser le pied.
Mais alors, quand je vois les mecs s'échauffer, là, Oumar Sadik, Mohamed Ali Chou, le russe là, Karazayev, je crois que c'est ça. Je lui dis, mais ils veulent nous en mettre 8 en fait. Et genre, ils vont s'échauffer à la 55e.
Et ce qui me filme, c'est que dans le groupe WhatsApp, ça commence à dire ouais, c'est quoi le record des défaites? Ça commence à apprendre.
J'ai pas trouvé ça très drôle, mais. Mais bon, l'humour est subjectif.
C'était quoi? C'était contre Vigo, ça?
Ouais, contre Celta de Vigo.
Ouais. Bon, ça va, on n'est pas passé. Enfin, ce soir, tu pourras dormir tranquille, tu n'as pas eu ce record.
Ah oui, je vais trop bien dormir, on a marqué un but.
Ah oui, c'était dit, c'est bon signe.
Top.
Bon, on va passer au match, du coup, où je pense que Braga a réalisé contre le Real Madrid. Bon, en termes de résultats, ça n'a pas été mieux, parce que Braga a perdu 3-0 contre le Real. Mais ouais, c'est déjà un peu plus logique, on va dire. Et en termes de prestations, bon, au final, c'est à peu près le même constat que là, c'est qu'il y a 15 jours. Braga a totalement bien commencé son match, a vraiment regardé le Real dans les yeux encore une fois, notamment avec ce penalty à la 5e minute que loupe Alvaro Diallo. Et quand tu as un pénalty comme ça aussitôt dans le match au Bernabéu, tu n'as pas le droit de le louper parce que ça te conditionne tout le match. Et au final, bah, à le Real, après ça, déroule, oui et non, parce que Braga reste dans le match. Mais tu as ce premier but de Brahim Diaz qui vient un peu contre le cours du jeu et qui a ensuite éteint totalement Braga. Et ensuite, ça enchaîne, quoi, 2-0, 3-0, en l'espace de deux minutes. Pardon. Et au bout du 3-0, tu n'as plus de match, tout simplement.
Antoine. Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, c'était un peu le même genre de match qu'à l'aller, à la différence que ici tu joues au Bernabéu, et donc tu sais que le Real va de toute façon avoir ce supplément d'âme, et autant à l'aller, ici Braga a bien joué aussi, comme tu l'as dit, franchement, ils ont pas du tout fait pâle figure, effectivement c'est 3-0, si le Real avait voulu accélérer en fin de match, ils en auraient mis plus aussi, d'ailleurs Mathieu fait quelques arrêts aussi pour ne pas aggraver le score, mais si tu regardes la première mi-temps, oui, le Real l'a fini mieux, mais si tu prends les 45 minutes, c'est équilibré comme match. Effectivement, le 2-0 et le 3-0 dans la foulée tuent un peu le suspense, et parce que tu sais aussi qu'au Bernabéu, quand tu as pris le 2-0, c'est fini. Là où à l'aller, même à 0-2, qui en plus était vraiment contre le cours du jeu, mais à 0-2, tu sentais que Braga ne baissait pas les bras. Là, quand le deuxième et le troisième qui arrivent d'un coup, voilà, ils ont les jambes coupées. Mais ouais, t'as parlé du penalty. On peut mieux le frapper, mais je dirais que c'est quand même surtout un arrêt de Lounine qui va le chercher qu'un pénalty vraiment mal frappé. Il est quand même mis dans le coin. Il pourrait être plus puissant.
C'est ça, ce que j'allais dire. Il est dans le coin, mais il n'est pas puissant du tout. Quoi.
Voilà, c'est ça. Mais je me dis que c'est plus un arrêt du gardien qu'un pénalty mal shoté, tu vois. Mais ouais, t'as ça. Mais ce que j'aime bien aimer aussi, c'est que bah voilà, après 5 minutes, tu prends quand même un coup sur la tête de rater un penalty. Mais Braga est directement reparti derrière. Ils avaient bien ciblé qu'il fallait prendre en deux contre un Vasquez avec ce positionnement un peu libre, spécial de Diallo, qui était plus axial et qui venait souvent du côté de Bruma pour mettre un surnombre sur Vasquez. D'ailleurs, bah, les 20 premières minutes, bah, peut-être les 30 premières minutes de Vasquez, c'est une catastrophe. Il prend un bouillon monumental sur son côté. Et je pense qu'on pourrait presque résumer le match à la prestation de Vasquez. C'est pendant 20-30 minutes, un bouillon pas possible, comme le Real qui est plutôt dominé par Braga. Et puis, bah, avec les minutes, après la 30e, il équilibre un petit peu. Il n'est plus trop mis en danger, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Et bah, le 2-0, c'est un assist de Vasquez, parce que tu as un peu cette inversion de dynamique entre les deux équipes. Mais voilà, c'est plus dommage, parce qu'on a senti que... Je dirais que c'est surtout dommage qu'il n'y ait pas eu de but pour Braga, parce que Braga en aurait mérité un, surtout pour cette 30 premières minutes qui était vraiment très bonne. Mais voilà, comme tu l'as dit en préambule, Alex, on va se répéter, je pense, chaque semaine avec Braga. On n'espère pas trop dans les deux prochaines semaines, mais... Voilà, c'est une équipe qui apprend, c'est une équipe qui redécouvre la Ligue des Champions, et voilà, dans les moments un peu clutch, comme disent certains, bah c'est ça qui fait la différence, surtout contre une équipe, contre le Real, qui est l'équipe typique qui accepte de souffrir et qui va frapper en contre, ou quand tu t'y attends le moins. Donc voilà, je pense qu'en fait le résultat est logique, on savait que ça allait se passer comme ça. Mais grand chapeau quand même à Braga d'avoir joué le jeu, d'avoir bousculé le Real pendant 30 minutes, et puis d'avoir même fait jeu égal jusqu'à la 60e. Après la 60e, effectivement, c'est défini, quoi.
Mais Phil, tu compléteras, Béfica apprend, mais sur...
Braga
à chaque fois, ouais. Braga apprend, parce que Béfica n'a rien appris, pardon. Braga apprend...
On n'apprend pas du tout, on n'apprend rien du tout.
Mais par exemple, sur l'action de Nakate, c'est à peu près la même action contre Naples, en fait. Où, tu perds ce ballon, tu as une mauvaise relance, et derrière ça fait but, et tu es déjà à ton quatrième. Et je crois qu'il y a aussi contre l'Union Berlin, où ici il n'est pas bon dans le placement, etc. Donc tu as des joueurs vraiment qui ont du mal à vraiment passer ce cap et à apprendre, parce que, et malheureusement, avec des champions, tu n'as pas vraiment le temps, parce que bah, ça va vite, hein, c'est 6 matchs, il faut que tu prennes des points. Donc voilà, c'est un peu mon regret, c'est que je vois des erreurs qui sont répétées à chaque match.
Surtout qu'il fait un gros match. Sur tout le reste, il fait vraiment un gros match.
C'est ça. Et à chaque fois, il y a un problème de relance,
ouais, à chaque
un problème
fois, de placement
qui te coûte un but. Parce que voilà, quand tu affrontes le Real, surtout le Real ne te pardonne rien. Tu perds un ballon anodin, bah, ça fait but derrière, quoi. Et ça, c'est vraiment mon plus gros regret, c'est de répéter toujours les mêmes erreurs. Mais oui, Braga a réalisé le même match qu'il a environ. Un peu. Allez, t'as un peu plus de frustration, parce que tu peux vraiment aller chercher ce 2-2, notamment la dernière occasion, je crois, je crois que c'est Ricardo Horta.
Ouais.
C'est ça. Et là, aujourd'hui, bon, tu joues bien, hein, mais tu n'as pas autant d'occasions qu'à l'aller. Tu as ce penalty manqué, tu as une occasion encore, mais c'est tout, en fait. Et tu sens vraiment que le Real a joué à 60%, 70%. Mais tu peux te dire que voilà, que tu as clairement regardé le Real dans les yeux, et tu n'as pas fait honte à tes supporters, et c'est peut-être le plus important quand tu vas au Bernabéu ou Philly.
Ouais, bah oui. J'aime bien faire le parallèle, parce que c'est complètement l'inverse de ce que nous, ça nous propose. Nous, ils nous font honte. Et Braga, non. Ils ont absolument pas à rougir de leur match. Avec un peu plus de chance, ça aurait pu tourner de... Enfin, pas forcément gagner, mais ça aurait pu être leur sourire un peu plus. Si Alvaro Diallo marque ce penalty, si la deuxième action qui pour moi aurait dû être un penalty de
encore avec Vasquez,
sur Bruma. Donc là aussi pareil, je pense qu'il méritait un deuxième penalty. Et au final, bah le Real, c'est le scénario typique du Real Madrid de Ancelotti, c'est-à-dire que ils font le 1-0 presque sur un temps faible où t'as l'impression que on les voit quasiment pas. Ils marquent un but comme ça. Puis toi, ils te font douter alors que tu étais plutôt bien dans ton match. Puis après, ils te marquent 2 buts en 5 minutes, et quasiment pareil. C'est-à-dire que ils défendent avec presque un bloc médian. Puis ça part en contre avec les 3 flèches de devant, Rodrigo, Brahim Diaz et Vinicius. puis on est sur le haut du panier, quoi. Là, techniquement, c'est enfin la passe de Vinicius à Rodrigo, oh, comme ça, c'est pas tout le monde incroyable. Qui peut le faire, tu vois. C'est-à-dire que moi, je m'attends à la passe devant Niakate qui fait la courbe, et lui, fait une passe derrière pour que vraiment Niakate il puisse pas toucher le ballon. Rodrigo, il fait le bon contrôle derrière, il la pique. Enfin, c'est un but symptomatique de la qualité technique du Real. À un moment, pareil, Brahim, il prend le ballon, il commence à passer. Il va super vite. Et encore aujourd'hui, t'as l'impression que, il fait tourner aujourd'hui. Hein. C'est même pas parce que il y avait 7 changements par rapport au match de Vallecano. Toute la défense presque, à part Rudiger. C'est des mecs qui sont pas forcément titulaires. Camavinga aujourd'hui aligné au milieu de terrain alors que souvent il a joué plus arrière gauche. Bellingham est sur le banc, Modric sur le banc, Brahim Diaz est titulaire. Enfin, il y a eu quand même pas mal de changements et au final, bah, tu vois que c'est la différence. C'est un effectif qui est très bien huilé. C'est une compétition, c'est leur compétition parce que même quand ils sont un peu secoués, ils sont calmes. Ils savent que dans tous les cas, ils vont gagner le match. Qu'ils ont les joueurs pour le faire, que tactiquement c'est carré et encore derrière dans le banc quand il fait rentrer Modric, c'est vraiment histoire de
pour le kiff. De te remettre un coup, tu remets un coup sur la nuque à l'adversaire.
T'enlèves Mendy, tu ferais rentrer Fran Garcia, c'est vraiment juste pour le kiff. Donc ouais, c'est, pour moi c'est un scénario, un match typique pour le Real de Madrid. Genre vraiment ils sont mis dans les meilleures conditions. Braga, avec son début de match, les a un peu facilités parce que si tu marques 1-0 chez eux, il y a peut-être moyen de les bousculer. Et il y a eu quelques imprécisions techniques aussi qui fait que la différence de niveau est visible entre une équipe qui apprend à être dans le plus haut, la plus haute marche du football européen et une équipe qui est là depuis des années et pour qui c'est sa compétition, clairement.
Clairement. Et tu as souligné aussi les erreurs techniques, mais aussi des placements. Et tu as notamment ce placement de Victor Caralho qui se situe, parce que Braga défendait avec une ligne de 5 sans ballon, mais c'était Victor Caralho qui occupait ce axe droit de la défense. Et tu le vois notamment sur le premier but, qui gère très mal son dos et il laisse totalement filer Rodrigo parce qu'il n'a pas l'habitude de se situer là. Donc ça, c'est peut-être aussi une erreur d'Arthur Georges. Une adaptation comme ça, rapide, contre Bernabéu. Et pour finir, après, je te laisse parler, Antoine.
Ouais, ouais.
C'est sûr que avec ballon, Braga n'a pas grand-chose à se reprocher. Mis à part que, encore une fois, pour moi, quand tu as un Abel Ruiz dans ton effectif, c'est compliqué de s'en passer parce qu'il est tellement complet. Et je pense qu'il t'aurait fait beaucoup de bien de haut but et mettre Alvaro Diallo comme ça en pointe. Je peux comprendre que tu cherches de prendre la profondeur, etc. Mais les Rudiger, les Nacho,
même un mec comme Panza qui est plus physique, peut-être qu'il aurait pu garder un peu plus les ballons. Surtout, c'est une charnière aussi costaud que Nacho et Rudiger.
Et voilà, comme tu sais, bah, Rudiger et Nacho sont beaucoup trop expérimentés comme ça pour laisser des espaces.
Et puis, il y a plein de vis.
Surtout quand Alvaro Diallo, en le mettant dans l'axe, tu te prives quand même d'un joueur sur les couloirs qui peut
être un dynamiteur sur le côté,
c'est ça. Donc c'est un peu près mes regrets, mais sinon Braga a fait vraiment un match complet. Et encore une fois, je suis persuadé que si tu marques ce penalty aussitôt dans le match, tu peux vite faire en sorte que le Bernabéu se retourne contre son équipe. Et je pense qu'il y avait le moyen de chercher au moins un match nul ou de faire un peu plus souffrir ce Real Madrid. Antoine, je te laisse finir ce que tu veux dire.
Sur l'alignement de Carvalho, ce que j'ai pas compris, c'est qu'en plus, déjà, effectivement, c'est pas une position où il a beaucoup joué, mais surtout au match aller, c'était lui le plus central. Il était entre Fonte c'était Niakate et Sati, c'était pas Fonte. Mais ici, sur cette phase-là, il est à droite. Pourquoi est-ce qu'il est pas au milieu? Parce que déjà, qu'il joue pas beaucoup à ce poste-là, mais en plus,
parce tu le mets pas. Parce que je pense qu'ils veulent pas laisser Fonte gérer la profondeur de
Ouais. Oui, mais d'un autre côté, si tu as Carvalho dans l'axe, il sert à compenser le dos de Fonte. Ouais. Le central, généralement, il compensait. Or, si c'est Fonte qui doit compenser, bon, c'est. Mais du coup, ouais, c'était pour ça, effectivement, on voit qu'il n'a pas l'habitude de ce poste-là. En plus, c'est pas le même que l'aller. Et effectivement, quand vous avez parlé de Banza, Banza, tu as déjà le répondant physique pour déjà un peu plus répondre à Rudiger Nacho. Mais même aussi la vitesse, il peut lui aussi prendre la profondeur. Banza, c'est quand même un attaquant rapide, bon, évidemment moins qu'un Diallo ou qu'un Bruma, mais il est quand même capable aussi de le faire. Donc, Donc ouais, un peu bizarre. Je dirais que moi, pour moi, même s'ils mettent le 0-1 sur le penalty, le Real gagne, mais ça gagne genre 2-1, tu vois, ou 3-1 avec le troisième but en fin de match, juste comme ça. Parce que je pense que le Real à domicile en Ligue des Champions, en fait, face à une équipe qui joue le jeu comme Braga, je pense qu'ils s'en sortent à chaque fois. Si Braga est arrivé en bétonnant derrière et qu'ils arrivent à faire 0-1, ok, à la limite, ils peuvent un peu stresser parce qu'on sait que le Real, parfois, contre les blocs bas, enfin, c'est d'ailleurs toujours contre les blocs bas qu'ils ont vraiment des difficultés, ou contre une équipe qui vient les presser très haut. Mais je pense que le Real aurait quand même gagné, même si Diallo avait marqué son penalty, mais qu'effectivement, ça aurait permis d'avoir un match serré plus longtemps. Et après, bah, voilà, Phil t'a parlé d'un match typique Real. Bah, le premier but, c'est pas vraiment une erreur de Carvalho, mais il te met, en une passe, il t'élimine tout un bloc et il profite d'un positionnement un peu moyen. Le deuxième but, bah, perte de balle de Niakate, but tout de suite. Le troisième, c'est une perte de balle qui est même pas une perte de balle. C'est Bruma qui essaye de faire un petit rush dans l'axe. Il se fait contrer. 5 secondes après, c'est 3-0.
En trois passes, trois passes.
Ouais, c'est incroyable. Donc
Il
voilà. Et quand tu
faut
vois
pas
la
leur
deux
donner de munitions, c'est clair.
ouais. Quand tu vois la deuxième mi-temps offensive du Real, parce qu'ils en ont raté, ils ont raté des occasions. Matheus en a sorti, Niakate en a contré plein. Mais quand ils sont en confiance et qu'ils sont un peu libérés, ça fait très mal. Et on savait bien que à Madrid, ça allait être compliqué pour Braga. Et ça n'empêche que oui, c'est vrai que les 30 dernières minutes étaient très déséquilibrées, mais bravo à Braga d'avoir joué le jeu. Et franchement, les 30 premières minutes, faut quand même le rappeler, ils ont vraiment bien joué.
Non, clairement, clairement. Sur les deux matchs, ils ont pas grand-chose à se reprocher.
Non.
On parle du Real de Madrid, 14 Ligue des Champions, qui répondra toujours présent dans cette compétition, qui envoie des Rodrigo, Vinicius, on les a cités tout à l'heure. Enfin voilà, tu perdre contre ce Real Madrid, c'était dans le cahier des charges, c'était normal, c'était prévisible. Mais dans le contenu, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en positif. Donc
Oui.
c'est ça aussi où on espère, et j'espère vraiment que contre Naples et surtout contre l'Union, que ces matchs contre le Real leur a permis de prendre de la confiance et de l'expérience pour engranger au moins 4 points ou au minimum 3 points pour se qualifier au moins pour l'Europa League. C'est l'objectif principal de Braga sur cette compétition. On savait que les deux premières places allaient être compliquées, mais au moins chercher l'Europa League parce qu'il y a de quoi faire comme en Europa League.
Ouais, et puis un truc aussi, mais quand tu vois le Real, cette habitude et ce calme dont on a parlé, bah, il change de gardien à 30 secondes du coup d'envoi, et le gars arrive et après 5 minutes il sort un penalty. C'est aussi ce truc-là, ils ont une sérénité dans ces compétitions que toi tu ne sais pas avoir parce que t'es novice. Mais donc en plus tu as ce truc où tu affrontes une équipe qui, quand tu es une équipe comme Braga, c'est quasi une équipe qui est imbattable chez elle. Donc voilà, c'est normal d'être battu par le Real. Et c'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir la prestation, comme tu as dit, Alex. Et voilà, il y a beaucoup de positifs. Je pense que bah, la qualif. Bon, pour l'Europa League, tu dois faire le truc la semaine, lors du prochain match. Hein, tu reçois l'Union. C'est le match le plus important. Et peut-être qu'avec le nul du Napoli, pourquoi pas? Pourquoi pas rêver d'un peu plus loin? Parce que prochain match, c'est Real Naples ou c'est Naples Real? C'est Real Naples. Ouais, c'est au Real. Real, s'ils veulent assurer leur première place, c'est pas dit qu'ils vont lever le pied. Donc potentiellement, tu as Naples qui est battu. Si tu bats l'Union, tu reviens à un point de la deuxième place. Donc ouais, il faut garder le positif et se dire que en jouant comme ça, on a vu contre Naples, tu les as bien bousculés quand il fallait. Il y a quelque chose à faire encore pour Braga. Outre l'Europa League, il y a peut-être aussi quand même les huitièmes à aller chercher. Même si je pense que pour le coefficient européen-portugais, il vaudrait mieux qu'ils soient en Europa League.
Quoi que je sais pas, parce que je crois qu'une défaite en Ligue des Champions, je crois que ça vaut quasiment une victoire en Ligue des Champions en Europa League.
Ok.
Donc au final, enfin, je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il y a un trop gros déséquilibre entre la Ligue des Champions et l'Europa League, et c'est pour ça qu'au final on se fait si avoir, parce qu'au final en Ligue des Champions on n'est pas si catastrophique que ça, en Europa League non plus. Mais étant donné qu'on
Vu
est
qu'on n'est pas en
maintenant
conférence.
en Conference League et que et voilà, donc au final les points sont sont super mal calculés. C'est pour ça qu'on est autant en galère sur l'indice UEFA. Mais je crois que oui, je crois qu'une victoire en Ligue des Champions, enfin même une défaite en Ligue des Champions, ça vaut quasiment une victoire en Europa League. Je dis peut-être une bêtise, mais il faudra me corriger si je l'ai dit, mais je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Phil, est-ce que tu as quelque chose d'autre à compléter sur Braga ou on peut passer sur les mentions spéciales?
Non, je pense qu'on a été complet là, sur Braga.
Sur les tops, au niveau de Braga, je pense qu'on peut signer Bourma, qui a cassé les reins de Ferland Mendy, de Nacho, etc. sur le début de match où il était vraiment extraordinaire et il a montré à Roberto Martinez qu'avec la blessure de Pedro Neto, il était quasiment impossible de ne pas l'appeler. Et je voudrais aussi souligner, les gars, la prestation de João Moutinho à 37 ans.
Oui.
Ce qu'il fait sur le terrain de Bernabeu à 37 ans.
Comme quoi, on peut incroyable. Courir à 37 ans.
Pas incroyable. Ouais, comme quoi, à 37 ans, on peut avoir encore le niveau Ligue des Champions. Donc, bravo à FC Porto d'avoir refusé ce joueur. Parce que, bon, c'est pas un titulaire Braga, loin de là. Mais je pense qu'il peut rendre encore beaucoup, beaucoup de services. Et il a prouvé ce soir que, je dirais pas que c'est une légende du foot portugais, mais que c'est un joueur ultra talentueux et que ce genre de joueur comme Pep, en fait, ils ont beau avoir 40 ans, 37 ans, leur niveau est beaucoup trop important pour que l'âge puisse prendre du poids chez eux. C'est juste quand ils vont prendre leur retraite, on va se rendre compte que les joueurs que c'était.
Qu'est-ce que ça va être beau quand il va s'asseoir sur un banc, dis donc.
Alors lui, ça va être exceptionnel, je pense.
Ouais. Oh là là. Je pense aussi que
ça va être notre Xabi Alonso.
Parce qu'il comprend le foot comme personne. Quoi. Aujourd'hui, il domine le milieu de terrain à lui seul contre le Real Madrid. Quoi. Donc,
c'est les déplacements les gens, qu'il fait à chaque fois. Ça.
Ouais. Les gens aiment beaucoup Ruben Amorim. Qu'est-ce que ça va être, ce monsieur?
Et j'ai envie de faire le parler aussi avec Vitinha, tu vois, parce que João Moutinho, c'est pas un joueur qui est sur le terrain que tu vois énormément ou qui va te faire 50 000 percées, 50 000 passes vers l'avant. Mais c'est un joueur qui pue le foot. Et ce joueur-là, c'est vraiment... je pense que si t'aimes le foot, c'est un régal à voir et c'est dommage de se contenter de voir juste des stats ou quoi, ou de penser qu'un joueur doit forcément faire 6000 passes décisives ou 5 passes progressives, ou 6 passes progressives ou je ne sais pas quoi, parce qu'au final, c'est des joueurs qui perdent tellement peu le ballon, qui te font vraiment du bien sous pression, qu'au final, c'est vraiment un régal de les avoir dans leur équipe parce que Joao Moutinho, ça a été ça toute sa carrière, c'était un joueur ultra sous-coté. Et la preuve sur les clubs qu'il fait, hein. C'est un joueur qui aurait mérité de taper un des plus gros clubs que Monaco, que Wolverhampton, mais c'est un joueur qui, vraiment, sur un terrain de foot, fait énormément de bien, et on l'a vu encore ce soir.
Son niveau dans le Porto d'André Villas-Boas...
C'était exceptionnel.
Je pense qu'on n'est pas loin du prime. Si c'est pas le prime, c'était incroyable. Genre, je crois que j'ai jamais autant regardé de matchs du FC Porto, surtout en Coupe d'Europe. Ce mec-là, mais
c'était plus foot. J'aime pas le terme plus foot parce que ça veut dire que c'est péjoratif. Mais...
Ah non, mais là pour le coup.
Il sent le football, quoi. C'est
incroyable. Un super joueur. Je suis pressé qu'il passe ses diplômes carrément.
Ouais. De toute façon, il sera même pas coach, hein, mais bon, je pense que.
Non, je pense qu'il est trop fou. Il est trop fou.
Les garçons? Si vous avez d'autres flops ou top à dire,
comme je sais pas si c'est un top en tant que tel, mais je pense qu'il a pas mal limité la casse de ce qu'on pouvait craindre. Fonte, quand même, qui se tape une attaque Rodrigo Vinicius. Ça a pas été, il a tenu son truc, il a pas été extraordinaire, mais loin d'être mauvais. Surtout quand tu vois le profil en termes de vitesse. Je pense que Vinicius et Rodrigo, ça va trois fois plus vite, pas deux fois, mais trois fois plus vite que lui. Et voilà, avec l'expérience, il a réussi à un peu limiter ce qu'il y avait. Et en plus négatif, je dirais peut-être à Braga, celui que j'ai le moins aimé, c'est plus Gomez, que j'ai trouvé vraiment plus en difficulté. Le plus en difficulté, en tout cas, sur l'ensemble de la rencontre. Plusieurs relances vraiment ratées, des mauvais choix aussi parfois. Et voilà. Et d'ailleurs, Mendes a été meilleur que lui en jouant alors, dans un autre contexte. Aussi, mais j'ai trouvé Mendes, son entrée a été vraiment bonne, Joe Mendes.
Ouais.
Donc voilà.
Ok, gars, est-ce que vous avez des mentions spéciales?
Non.
Mention spéciale à la Youth League avec encore une défaite.
J'allais y finir.
Alors, j'ai vu vite fait le match de Braga, je me suis un peu emmerdé, mais du coup, tu vas en parler un peu plus, je pense. Juste à souligner encore le très grand match de Jean Carvalho, qui est un gardien exceptionnel. Et nous, de notre côté, bah, écoute, on a été nuls, encore une fois. On prend, bah, comme quasiment, c'est quasiment le même scénario, on prend deux buts très tôt. Enfin, déjà, on prend un but très tôt. Et après, on en prend un deuxième. On a un but de Jean-Ric qui est, somme toute, comment dirais-je, joyeux. On s'en sort bien sur ce but. Après, c'est pareil, j'ai un entraîneur qui est dépassé, qui sait absolument pas ce qu'il fait. Il met des joueurs à des postes. Alors, de toute façon, j'avais déjà envoyé sur le groupe WhatsApp, mais inventer Nuno Félix en centrale, alors que même en 6, qui est censé être son poste, parfois c'est douteux. Jean Régue, le pauvre, un coup il est neuf, un coup il est ailier, un coup il est milieu. On ne sait pas trop, il le balade. Gustave Valère, il revient de blessure, ça le met titulaire. Donc bon, dès la compo, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Et au final, sur le terrain, c'est pire que ça. Et la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. Et ça s'éteint. Et donc du coup, l'idée, c'est, quand tu as une formation comme ça, c'est que les jeunes s'inspirent de l'équipe A pour qu'il y ait à peu près les mêmes automatismes, les mêmes routines, et bah, faut croire que le plan est bien en marche, car les jeunes s'inspirent beaucoup de l'équipe A, mais pas pour les bonnes raisons.
Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que le Seychelles nous habitue à avoir des grandes générations
Ah, c'est
et
dur, hein.
sortir des grands joueurs. Et là, il y a vraiment un creux générationnel. Alors attention, je ne dis pas que le Seychelles travaille mal ou que c'est devenu tout pourri, etc. Parce qu'encore l'année dernière, tu fais trois titres de champion. Enfin, tu gagnes en U15, en U17 et t'en fais deux, pardon, t'en fais deux parce que U19 c'est Famalicão, mais ouais, tu gagnes quand même en U15 et U17, donc ça prouve quand même qu'il y a de la qualité. Mais par exemple, en Youth League, ça va faire quand même 2 saisons où c'est un peu plus compliqué. Et franchement, je vois pas de génération exceptionnelle quoi qui va arriver.
T'as
Enfin,
quelques bons petits
t'as des bons
joueurs.
joueurs, forcément, t'as des joueurs qui vont aller en équipe A parce que t'as toujours un crack ou forcément, t'as
Je
un ou
pense
deux joueurs
Rafael Luiz.
qui. Raphaël Louis, totalement. En 2005, ouais, t'as
Même.
Raphaël Louis. En 2006, t'as Gonzalo Moreira. T'en as un ou deux qui perceront à chaque fois, mais t'as plus de génération exceptionnelle comme tu pouvais avoir avec la 2002, avec la 2000, 99-2000, la 2004-2005 où tu gagnes la Youth League. Je pense que t'as un petit creux au niveau de la générationnelle, au niveau de la formation du Seychelles.
Ça se ressent dans les résultats, hein. Et
Comment?
puis aussi, mais ça se ressent dans les résultats. La B est catastrophique,
Avec catastrophique, les
le
23 n'en parlons
U23
pas.
pareil.
C'est
Et
ça.
mais parce que les formateurs sont pas bons, et le coach de la B est pas bon, le coach des 23 est pas bon. Donc, et puis en plus de ça, tu as les générations qui sont moyennes. Genre, tu vas
Surtout,
voir que.
c'est que tu as le club voisin qui dépense, encore une fois, je le
Ah
répète, mais
oui.
énormément de sous sur la formation, qui prennent tous les meilleurs joueurs de Lisbonne en ce moment. Donc, c'est un petit, je dirais pas un message d'inquiétude, parce que Benfica aura toujours des bons joueurs à sortir, ça je suis pas inquiet du tout pour ça, mais tu as une grosse concurrence qui s'installe avec le Sporting, avec même Casapia qui fait de plus en plus du bon boulot, etc. Sur la région de Lisbonne, Benfica n'est plus aussi souverain, donc attention, c'est un petit message d'alerte, je suis pas inquiet encore, mais je vois plus de grosses générations comme je pouvais avoir auparavant.
Là où les autres progressent beaucoup, bah tu parles de Sporting, Braga progresse beaucoup au niveau de la formation, et même les plus petits clubs que sont des Famalicão ou Estoril, bah ils progressent aussi. Et donc voilà, peut-être que. Enfin, moi je connais un peu moins les tout jeunes, mais d'ici quelques années, il se peut que Sporting roule sur toutes les catégories jeunes. Après, il faut voir ce que ça donne là-haut, mais ouais, nous en ce moment c'est compliqué.
Les garçons?
Oui, attends, juste un petit truc, c'est
Vas-y.
que Phil a dit que j'étais gentil, donc faut que je sois un peu plus méchant, manifestement.
C'est pas cool.
Pour ma petite mention spéciale, c'est pour Diogo Gonçalves de
Petit
Copenhague,
con, le petit con.
qui du coup, avant cette journée de Ligue des Champions, avait marqué plus que le Benfica en Ligue des Champions. Et il a vu que Rafa avait marqué, il s'est dit non, non, donc il a mis un assist, un but dans la victoire contre United, et donc Diogo Gonçalves est toujours marqué plus de buts que Benfica dans cette saison de Ligue des Champions.
Ça va apprendre à faire des compliments aussi à des gens.
Et Manchester United qui est en passe de se faire éliminer encore de
Ligue des Champions.
Ça voudrait dire que Bruno Fernandes a bientôt 45 ans, n'a toujours pas fait un 8e de Ligue des Champions. Et ça, c'est merveilleux. Ça, il faut le souligner. C'est...
Oui, mais il a mis un penalty.
Il a mis un penalty, mais attention, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur ou autre. Mm-hmm. Je pense même que c'est notre meilleur joueur en sélection. Mais quand j'entends dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde ou que c'est je sais pas quoi, nana, un joueur qui a 29 ans, pour l'instant, n'a pas fait encore de 8e de finale des Champions. Là, il est en passe, ils sont quatrième de leur poule, donc je ne sais pas s'ils vont se faire éliminer encore, mais si le bonhomme a 30 ans n'aura toujours pas fait le 8e Ligue des Champions, ça voudrait dire aussi que c'est pas forcément le crack qu'on pense avoir, et ça me ferait doucement rire quand même, parce que ça prouverait que Manchester United est en grande difficulté, et que finalement Mourinho n'a pas fait si mauvais de travail là-bas. Donc,
clairement.
Donc, voilà.
Après, nous, c'est le cirque, mais eux, waouh, réussir à... Tu gagnes 2-0, tu prends un rouge et t'arrives à perdre.
Ça fait combien d'années qu'ils ne sont pas fait un but de finale de champion, hein.
Ils font 2-2 avant la mi-temps. Ils font
tu refais 2-3. Ouais, tu refais 2-3. C'est un truc de fou.
Et tu perds
4-3.
Ouais, le 3-3, c'est la 83e. Donc, à 7 minutes de la fin, tu mènes encore. Ouais.
Copenhague, cette année, c'est relou à jouer. Hein.
Oui, ouais, comme chaque année un peu.
Oh, mais là,
depuis 2-3 ans, c'était un peu moyen. Mais ici, ça revient petit à petit. Mais
peut-être qu'on aurait dû garder
ils avaient accroché. Ouais, ils avaient accroché le Barça. Ça doit faire 10 ans maintenant. Ils avaient quand même accroché le Barça. Donc, mais c'est toujours une équipe relou. Et c'est vrai que ça faisait 2-3 ans que c'était plus trop fou. D'ailleurs, je crois que c'était il y a 2 ans. Ils ont lutté pour le maintien pendant longtemps au Danemark. Mais voilà, ça reprend petit à petit. Effectivement, équipe vraiment relou. D'ailleurs, on a vu même le Bayern à galérer contre eux.
Ouais, clairement. Et Manchester va jouer contre le Bayern, il va à Galatasaray. Enfin, bonne chance à eux.
Ouais, ils vont d'abord à Galatasaray et puis ils vont le Bayern.
Donc ça va être compliqué. J'ai plus de souvenir de quand est-ce que Manchester United a fait un 8e de Ligue des Champions.
Vraiment, ouais, de Ligue des Champions.
J'ai plus de souvenir.
Ouais,
il devait avoir CR7.
Ouais, c'était quand même CR7. Ouais. Et avant ça.
Attends, mais avant... c'était. Ah oui, c'était quand il y avait CR7. Oui. Excuse-moi, j'ai loupé ce passage-là.
Non, mais avant CR7.
Oui, donc Bruno Fernandes aura fait quand même un 8e des finales de Ligue des Champions. Voilà. Mais ce qui reste trop peu. Qui reste pas assez suffisant pour un joueur de son calibre. Oui, c'est vrai. S'ils se font les Mila, c'est vrai. Donc ils auraient fait un 8e des finales en l'espace de beaucoup trop d'années, quoi. Enfin, oui. Incroyable pour un club de cette dimension. Comme quoi, dans le football, tu peux être très en haut rapidement, mais tu peux aussi être en bas et avoir du mal à remonter. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Les gars, est-ce que vous avez un dernier truc à dire avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve la semaine prochaine ?
Moi, j'ai rien à rajouter.
La semaine prochaine, ça va dépendre de dimanche. Hein. Peut-être que...
Oh, c'est bon, t'es plus à ça près, mec.
Après, franchement...
T'es habitué...
Je vais devenir ultra de Maliti, moi je vais être avec Antoine.
Ah ouais, bien. Ça va
parce que Maratimo, ils ont fait le même match là, contre Manchester United et Copenhague.
Vous vivez des matchs intenses, je vois ça.
4-3 contre Unilever, c'était un super match.
Franchement, un match, en vrai, un match incroyable.
On s'est régalé, clairement.
Ouais.
Et j'étais bien content en plus, malheureusement. Désolé,
je sais.
Bon les gars, on dit lundi pour une mission qui risque d'être encore très controversée.
Je crois que je serai pas là, moi.
Mais si, ça va être là. Sera là et on va tous débriefer ce classico entre Benfica et Sporting.
C'est un derby.
Aussi, hein, on peut appeler ça ce match n'importe comment, tellement il est d'importance.
Je crois qu'on va l'appeler la branlée aussi, surtout lundi.
Mais non, il faut se méfier. Généralement, dans les matchs comme ça, c'est l'équipe les moins confiance qui finissent par gagner. Donc...
Non, mais ça marche pas avec nous. Ça. Porto, oui, mais pas nous.
Donc voilà, on verra ça dimanche, mais on espère avoir surtout un bon match. Et on espère aussi voir le Sporting gagner demain. Et
j'ai trop peur.
J'ai pas choisi mon club encore. Mm-hmm. J'ai pas encore choisi mon club. Les garçons, et merci à tous d'être encore présents à minuit 15. Merci à vous, merci aux nos auditeurs. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.